beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui face à leur alimentation, avec tout ce qu'on entend de messages alarmistes et ou contradictoires sur les effets sur la santé, sur l'effet sur l'environnement, sur tout ce qu'on peut imaginer. Donc, parfois, une recherche de, finalement, de facilité en disant, bah, il faut que je me trouve un guide, un gourou, disons-le, qui va m'aider à progresser dans mon alimentation et à trouver l'alimentation idéale. Et ces gourous se nourrissent de cette fragilité, de ce côté influençable de beaucoup de personnes. Souvent d'ailleurs, grâce à un storytelling bien rodé, scénario typique, c'est la personne qui va raconter qu'elle a été gravement malade et qu'elle s'est auto-soignée grâce à un régime.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. C'est un mal de notre époque en matière d'alimentation. Un phénomène silencieux, mais pas moins destructeur, qui isolent chaque année des milliers de personnes de leur entourage. Entre 2015 et 2020, les signalements de dérives sectaires liées à la santé et au bien-être ont doublé. La Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, alerte sur le danger des mouvances et groupes qui appellent à des régimes carencés. Ces modes d'alimentation ont tous un point commun. Ils mènent à un affaiblissement physique de l'individu qui devient alors moins résistant à des manipulations psychologiques. Un mécanisme de domination bien ficelé par les nouveaux gourous de l'alimentation. Jeûner à outrance, ne manger plus que de l'air, exclure les aliments cuits, les dérives sectaires dans l'alimentation sont nombreuses. Dans cette série, nous allons plus précisément plonger dans les rouages du crudivorisme, que l'on appelle également alimentation vivante, une pratique alimentaire qui prône la consommation exclusive d'aliments crus. Séduisant de par ses promesses d'une meilleure santé loin des diktats de l'industrie pharmaceutique, ce mode de vie repose aujourd'hui sur une constellation de vidéos et de livres mettant en scène l'idée d'un complot, de vérité cachée. Entre déficit alimentaire, complications de santé et isolement social, les dangers sont pourtant grands. Mais dans un monde en perte de repères, contrôler à outrance son alimentation est devenu une manière de donner du sens à son existence. Comment les idées de nourriture et spiritualité s'imbriquent-elles aujourd'hui? Que racontent ces mouvements de notre rapport à la nature? En quoi l'obsession du manger sain peut-il conduire à une détérioration de notre organisme? Et en filigrane, qu'est-ce que ces dérives sectaires disent de notre rapport au monde contemporain? Vous avez sans doute déjà entendu son nom, au moins récemment dans l'actualité. Thierry Casasnovas, gourou du crudivorisme, a été mis en examen. Très populaire sur YouTube, ce soi-disant naturopathe est suspecté d'abus de confiance, d'exercice illégal de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses. Sans diplôme médical ou de nutrition, Thierry Casasnovas s'est fait un nom avec ses vidéos à succès, qui cumulent pas moins de 80 millions de vues, dans lesquelles il prône le jeûne et la consommation de légumes et de fruits crus, pour prévenir, traiter et guérir le cancer, des maladies chroniques comme le diabète ou encore régénérer le corps.
Je vais vous raconter une histoire dans les quelques minutes qui viennent qui va vous montrer à quel point nous avons tous été victimes d'un mensonge, qu'on a cru à ce mensonge et que, croyant à ce mensonge, eh bien, on a adopté une manière de faire qui est complètement en rupture avec la réalité. Et c'est pour ça que notre santé est en échec complet tout le temps.
Thierry Casasnovas, qui se fait également surnommer Titi pour les intimes, est notamment soupçonné d'avoir commercialisé des jus et des compléments alimentaires par le biais de montages financiers suspects. Et c'est ce que nous verrons plus tard dans cette série. Mais d'abord, intéressons-nous au crudivorisme en tant que tel, le mouvement dont ce fameux Titi se réclame. Abandonner la cuisson et embrasser une nouvelle vie d'alimentation crue, c'est ce que propose le crudivorisme, ce courant qu'on appelle également alimentation vivante. Pour les défenseurs de cette manière de se nourrir, il y a une urgence à éviter la chaleur en cuisine, qui serait à l'origine tantôt d'une destruction des nutriments, tantôt d'une formation de composés toxiques. Mais basculer vers le 100% cru est-il réellement bon pour la santé? Aujourd'hui, certains adeptes de ce régime semblent être tombés dans un système de croyances sectaires et dangereux. Si manger cru peut avoir ses vertus, manger 100% cru, lui, expose à de véritables risques sanitaires. Et pour en savoir plus, je me suis entretenue avec Christophe Lavelle.
Je suis Christophe Lavelle, chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle, donc avec un laboratoire situé dans le Jardin des Plantes à Paris.
La dernière fois que j'ai tendu le micro à Christophe Lavelle, c'était en novembre 2019, à l'occasion d'un épisode de Bouffon sur la soupe. Depuis, plus de 3 ans ont passé et je retrouve Christophe Lavelle dans un café pour cette fois demander aux biophysiciens de revenir sur le crudivorisme en tant que phénomène qui s'est particulièrement démocratisé cette dernière décennie.
C'est une tendance qui a fait beaucoup parler d'elle assez récemment, qui, comme son nom l'indique, consiste à s'imposer, hein, c'est un régime très restrictif, s'imposer de ne consommer que des aliments crus. On parle aussi parfois d'alimentation vivante, hein, c'est presque synonyme dans cette logique. On est proche, en fait, du principe d'incorporation, c'est-à-dire que les adeptes de ce régime imaginent qu'en consommant cru, ils vont absorber l'énergie vitale des aliments. On est évidemment dans le fantasme le plus complet.
Alors l'alimentation vivante, c'est vrai qu'avec cet adjectif vivant, on pense même au vin vivant, au vin nature, c'est des mots qui connotent des choses plutôt positives dans ce monde où tout est manufacturé, beaucoup de choses sont produites à échelle industrielle. Donc c'est ça qui fait penser à un imaginaire d'alimentation saine. Sur quoi exactement se basent les personnes qui pensent que manger des choses crues, c'est bon pour la santé? Est-ce que dans certains cas, manger certains ingrédients crus s'avère effectivement mieux que les manger cuits?
Alors, il y a en fait, paradoxalement, beaucoup plus d'exemples où c'est beaucoup mieux de manger cuit que d'exemples où c'est beaucoup mieux de manger cru. Déjà, disons-le clairement, c'est mieux de faire les deux, c'est-à-dire de mieux manger varié, comme on dit, non seulement en termes de sourcing d'ingrédients, mais aussi en termes de préparation. La cuisine est un acte essentiel dans notre alimentation, et c'est important de jouer à la fois sur le cru, le cuit et le fermenté, d'ailleurs, qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est uniquement avec ces différentes techniques qu'on peut imaginer, sans trop d'efforts, avoir un régime parfaitement équilibré. Maintenant, quand on se met des restrictions, comme le font les crudivoristes, c'est souvent un mauvais signe et les effets sont souvent délétères. En l'occurrence, consommer cru, on se dit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va, c'est des aliments vivants, donc plus intéressants nutritionnellement parce que il y a cette notion de vitalité qui, encore une fois, est un fantasme complet et qui s'appuie de manière malhonnête sur le fait qu'il est vrai que certaines cuissons déstabilisent certaines vitamines. Hein. On sait que, par exemple, la vitamine C est assez fragile. Donc souvent, c'est l'argument utilisé en disant attention, en cuisant l'aliment, on va détruire les vitamines. Ce qui est factuellement faux, c'est-à-dire que, bien sûr, certaines vitamines vont partiellement disparaître lors de cuissons prolongées, mais aucune n'est totalement détruite. Et même un légume cuit et même archi-cuit reste intéressant nutritionnellement. Donc c'est important de vraiment de voir ça de manière très raisonnable. Et d'autant plus qu'à l'inverse, pour le coup, il y a des aliments qu'il ne faut surtout pas consommer cru. Il y a pas mal d'exemples, notamment, c'est connu sur certains végétaux comme les tubercules. De manière générale, elles ne sont pas vraiment toxiques, consommer cru, mais que je prenne des patates douces ou des pommes de terre, c'est très peu digeste. C'est des glucides complexes qu'il est nécessaire de travailler à travers une cuisson pour pouvoir justement les rendre digestes. Après, il y a des choses vraiment toxiques comme les haricots, surtout les haricots rouges, mais pas que, les haricots verts aussi, qui sont riches en lectines, c'est des protéines, notamment la phytohémagglutinine, qui, comme son nom barbare un peu l'indique, un phytohémagglutinine, c'est-à-dire que c'est un composé de plantes qui a un rôle, un mécanisme qui fait que ça va faire agglutir les globules rouges. Donc c'est toxique, il ne faut pas plaisanter avec ça. Ça tombe bien, la plupart des gens qui mangent des haricots ont finalement le réflexe de les cuire, mais ça serait une bêtise de ne pas le faire, de les consommer crus. Après, il y a des champignons, là on est en dehors des végétaux. Si je prends l'exemple de la morille, par exemple, elle est riche en hémolysine, elle. Donc l'hémolysine, là aussi, ça va attaquer les globules rouges, mais plutôt les exploser, finalement. Donc c'est très peu recommandé, comme on peut s'y attendre. Et par chance, l'hémolysine est une protéine qui est thermolabile. Donc la cuisson va, en fait, détruire cette protéine et donc détruire son action toxique. Il faudrait rajouter aussi tout ce qui concerne le régime d'origine animale, hein, que ce soit poisson ou viande. On peut toujours craindre des contaminations parasitaires, bactéries, virus ou autres. Et c'est vrai que d'un point de vue sanitaire, c'est quand même souvent rassurant de les cuire. Ça ne veut pas dire qu'on va s'interdire un tartare, mais je sais que voilà, notamment sur des gibiers, on va éviter de se faire un tartare de chevreuil en général. Donc il y a quand même un vrai attribut positif à la cuisson, et plusieurs, parce que là je viens de parler de détoxification. Il y a aussi le fait que paradoxalement, ça peut améliorer le contenu nutritionnel. Alors pas d'un point de vue biochimique, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer des vitamines en cuisant. Par contre, on va éventuellement améliorer leur biodisponibilité. Je prends l'exemple du lycopène, de la tomate. Donc la tomate est riche en lycopène, c'est un antioxydant, tout va bien. Donc c'est une très bonne idée de manger des tomates crues. Hein. Mais c'est paradoxalement, finalement, encore mieux de les manger cuites, parce qu'on ne va pas détruire le lycopène, au contraire, on va améliorer sa biodisponibilité, c'est-à-dire que du fait de déstructurer un peu les tissus végétaux, ça fait qu'on va plus facilement l'assimiler dans notre organisme. Donc finalement, il y a quand même majoritairement des avantages à la cuisson. Alors, pour relativiser un tout petit peu, pas que, puisque, comme dans toute chose, il faut être raisonnable. Et ce qu'on sait aussi, et ça c'est un argument, une fois de plus, qu'utilisent les crudivoristes, mais c'est un peu un argument malhonnête et détourné, et évidemment que quand on surcuit, on va perdre quand même une partie du contenu nutritionnel, comme je l'ai déjà dit, mais aussi éventuellement générer des composés toxiques. On sait qu'on a des amines hétérocycliques sur les viandes qui sont trop grillées, donc, et ça c'est cancérigène. On sait qu'on a de l'acrylamide sur des pommes de terre sur lesquelles on va faire une friture beaucoup trop poussée, et ça aussi c'est cancérigène. Donc bien sûr que la cuisine, comme tout acte sur l'aliment, doit être maîtrisée pour être intéressant.
Tu as parlé de biodisponibilité, est-ce qu'on peut revenir sur ce terme et expliquer plus en détail ce que ça veut dire exactement pour l'organisme ?
Biodisponibilité, c'est un concept fondamental dans la nutrition et qu'on commence à connaître finalement depuis peu. C'est-à-dire que jusqu'à pas si longtemps, la nutrition, c'était une discipline qui raisonnait presque exclusivement en termes biochimiques. À savoir, on avait des tables, on analysait et on disait que voilà, dans tel aliment, j'ai tant de pourcents d'antioxydants, de vitamines A, B, C, D, etc., de protéines. Bref, on listait le contenu moléculaire des aliments en disant voilà le pouvoir nutritionnel de l'aliment. Donc c'est vraiment une logique très biochimique. Et on se rend compte que c'est très limité comme approche parce que assez souvent, on a des nutriments qui sont présents dans l'aliment mais qui, en fait, ne restent pas et ne sont pas captés par notre organisme. Il y a des exemples célèbres, comme la vitamine B12. Là, pendant longtemps, on a dit « Ah, les véganes, ils sont carencés en vitamine B12, pas de souci, il faut qu'ils mangent de la spiruline, c'est très riche en vitamine B12. » Oui, mais effectivement, la spiruline est très riche en vitamine B12, mais totalement non assimilable par notre organisme. Donc, le fait que la molécule existe dans l'aliment ne veut pas dire qu'on va pouvoir l'utiliser. Et c'est là qu'intervient le concept de biodisponibilité, ou comme son nom l'indique, ça veut dire que la molécule en question est disponible d'un point de vue biologique pour notre organisme. Et c'est ça, in fine, qui est intéressant. Donc ça veut dire que quand on raisonne en nutrition, aujourd'hui, il faut absolument tenir compte des caractères non pas seulement biochimiques, mais aussi et surtout physiques de l'aliment. Et ça va, cette biodisponibilité va dépendre du traitement qu'on applique à l'aliment. Est-ce qu'on va le mixer ? Est-ce qu'on va le faire fermenter ? Est-ce qu'on va le faire cuire ? Et tout ça, ça va potentiellement changer justement cette disponibilité en minéraux et en vitamines et protéines, glucides et autres que contient l'aliment.
Avec une idée donc d'assimiler, de pouvoir assimiler ces nutriments dans notre organisme.
Avec l'idée de pouvoir les assimiler, parce que c'est quand même ça le but. C'est-à-dire, d'une certaine manière, je m'en fiche d'avoir la liste exhaustive de tous les nutriments qu'il y a dans un aliment. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir parmi ces nutriments, quels sont ceux que je vais effectivement pouvoir capter pour que ça serve à mon métabolisme.
Alors, tu nous l'as expliqué à travers plusieurs exemples. Il y a plus d'avantages à manger cuit que cru. Quels sont, malgré tout, peut-être ces ingrédients qu'il est plus intéressant de consommer cru que cuit ?
Pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut jouer sur tous les tableaux. Donc, j'aurais du mal à citer un aliment qui n'est pas d'intérêt à manger cuit, finalement, enfin, à part d'un point de vue gustatif. Hein, on peut aimer ou pas aimer. Hein, je ne sais pas, si je mange de la salade, ça peut m'ennuyer de me faire une salade cuite, encore que, pourquoi pas. Mais d'un point de vue nutritionnel, il faut jouer sur les deux tableaux. Je prends l'exemple de la carotte. Bon, c'est très bien de manger des carottes crues. Il y a du croquant, il y a des vitamines. Et puis, les carottes cuites, il y a peut-être certaines vitamines qui vont être un peu atténuées par la cuisson, d'autres qui vont être plus biodisponibles. Donc, c'est aussi très bien de manger la purée de carottes. Et donc j'ai pas, voilà, autant j'ai des exemples d'aliments qu'il ne faut surtout pas manger cru, autant je ne vois pas d'exemple d'aliments qu'il ne faudrait surtout pas manger cuit.
À la limite, il y a cette question de ne pas manger trop cuit.
Voilà, c'est juste toujours pareil, une sorte d'excès. Et de toute façon, ça n'a aucun intérêt de, entre guillemets, de trop cuire. On va générer des choses qui n'apportent rien d'un point de vue gustatif. Enfin, c'est quand même un peu paradoxal. Quand je dis que ça n'apporte rien d'un point de vue gustatif, c'est que finalement, l'évolution a pas si bien fait son travail, puisqu'il y a quand même, si je reprends mon exemple de la viande grillée, c'est vrai qu'on a une appétence pour cette espèce d'odeur de viande très très grillée ou ces frites très colorées, alors qu'effectivement, c'est quand on voit cette signature colorée que l'on sait en même temps qu'il y a eu création d'un certain nombre de composés que j'ai mentionnés tout à l'heure, comme l'acrylamide ou les amines hétérocycliques, qui sont objectivement mauvais pour notre santé. Donc voilà, il faut juste savoir ça et faire toujours un pareil, un compromis. Hein, bon, si on on aime bien la viande grillée, on s'en fait une de temps en temps. Et le reste du temps, on essaye de pas trop pousser la cuisson quand même.
Donc ça, c'est la réaction de Maillard, ce qui nous fait saliver devant ce brunissement des ingrédients, ce côté un peu doré.
Cette fameuse réaction de Maillard qui donne cette merveilleuse odeur au café torréfié, aux fèves de cacao torréfiées, au pain grillé, et bref, à tout ce qui sent bon, et qui nous fait saliver, effectivement, mais ne génère pas que des bonnes choses.
Alors maintenant que tu nous as expliqué qu'il y avait vraiment un intérêt à mélanger à la fois des ingrédients crus, cuits, en tout cas à diversifier cette alimentation, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans l'organisme des personnes qui ne mangent que cru, exclusivement cru?
À partir du moment où on s'impose un régime très restrictif, c'est presque un pléonasme, un régime restrictif, malheureusement, on est presque systématiquement sur le long terme de développer des carences. Puisque, à l'inverse, la manière la plus simple et la plus efficace de ne pas développer de carences, c'est de manger de tout. Alors, on dit toujours un peu de tout, c'est-à-dire que garder un côté frugal, mais en même temps, vraiment insister sur la nécessité de varier notre alimentation à travers les végétaux, la matière animale, les champignons, etc. Donc, si on se met des restrictions, la plupart du temps totalement artificielles, qu'elles soient d'origine religieuse alors ici, le crudivorisme, je ne sais pas à quoi on peut rattacher ça, mais on est sur un schéma qui, de mon point de vue, est assez sectaire, donc proche de ce qu'on peut considérer comme religieux. Tout ça, c'est des subtilités sémantiques. Et donc, voilà, ces restrictions-là, de dire « je ne vais manger que cru », le piège, c'est que sur le court terme, ça peut éventuellement faire du bien. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on se lance dans ce type de régime, c'est qu'en général, il y a un mal-être, ou il y a un surpoids, ou quelque chose qui nous dérange, physiologiquement ou psychologiquement, et on se dit, tiens, il faut que je trouve un régime. Et éventuellement, en regardant sur Internet ou autre, on va se dire, tiens, le crudivorisme, qu'est-ce que c'est? Ça m'intéresse, j'ai des témoignages. On se laisse embarquer un peu là-dedans. Et puis, sur le court terme, oui, ça peut être pas mal, parce que ça veut dire que juste, on va tout à coup faire attention à son hygiène de vie. On va peut-être arrêter un peu les excitants comme le café ou le tabac ou autre, on va se reposer un peu, on va manger plus de végétaux et donc tout à coup un peu plus de vitamines et de minéraux. Et donc sur le court terme, on va peut-être se sentir mieux, voilà, au bout de quelques jours, on dira, tiens, ça marche, sauf que sur le long terme, ça va pas être viable du tout, parce que ce type d'alimentation, une fois de plus, va forcément laisser des carences, notamment en vitamines, en minéraux et aussi éventuellement en protéines, parce que mine de rien, on a besoin de protéines. Bien sûr, il y a des protéines dans les végétaux, mais pour réussir à métaboliser, à capter la même quantité de protéines que si je mange du fromage ou des œufs, il va falloir manger un sacré paquet de végétaux. Et ça, c'est pas forcément gagné.
Aujourd'hui, on parle de plus en plus des liens qu'il y a entre crudivorisme et dérives alimentaires sectaires. Selon toi, sur quoi se base ce dogme alimentaire du crudivorisme? Tu as parlé d'un mal-être qui peut en général être moteur chez les personnes qui vont se mettre au crudivorisme. Est-ce que ça s'accompagne aussi peut-être d'un discours de méfiance généralisée envers ce qu'on nous dit, le discours de santé? Est-ce qu'il y a cette impression pour les adeptes du crudivorisme de toucher du doigt une réalité, une vérité qu'on leur cacherait?
Bien sûr, il y a toujours en fait une forme de fantasme qui peut se nourrir de problématiques tout à fait réelles. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on réfléchit à notre alimentation moderne, on dit toujours qu'elle est trop transformée, on utilise le mot ultra transformé. Donc c'est presque logique d'aller à l'opposé, à l'encontre de cette idée, justement, et de dire, mais puisque le transformé c'est mauvais, alors je vais manger le moins transformé possible. Et le moins transformé possible, c'est le cru. Mais comme toute idée simpliste, elle est malheureusement fausse. C'est-à-dire que, comme toujours, il y a un intermédiaire, un optimum dans les bienfaits de notre alimentation. Et c'est jamais bon, en tout cas rarement bon, de passer d'un extrême à l'autre. Et il y a aussi ce qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est de se dire, une fois de plus, ce fantasme de la vitalité qui ne repose sur rien, à part, encore une fois, une espèce d'imaginaire de l'être vivant dont on va incorporer l'énergie vitale, ce qui pouvait peut-être être audible chez nos ancêtres au paléolithique. Mais quand même, la science aujourd'hui nous a permis d'avancer un peu, et heureusement, et de comprendre que si on veut effectivement capter l'énergie des aliments, justement, la cuisson peut sacrément nous aider. Et c'est d'ailleurs, d'un point de vue évolutif, un des scénarios, une des théories qui fait relativement consensus auprès des anthropologues, de dire que c'est justement l'apparition de la cuisson, il y a entre 800 000 et 700 000 selon les endroits, c'est cette apparition de la cuisson qui a permis d'augmenter la part nutritionnelle, la part énergétique de notre alimentation, et donc de favoriser sans doute le développement notamment de notre cerveau. Tout ça, ça reste des hypothèses, mais qui sont assez bien admises dans la communauté. Donc la cuisson a eu un vrai intérêt évolutif. Donc c'est un peu bête pourrait-on dire, de faire une croix comme ça sur des années et des années de recherche scientifique en imaginant que, en fait, non, finalement, nos ancêtres, ils se portaient mieux avant l'apparition de la cuisson, ce qui est assez difficile à démontrer quand même.
Oui, cette découverte du feu, on explique non seulement elle nous a permis d'accéder à certains aliments, mais aussi avec le fait de pouvoir reproduire ce feu, de reproduire la cuisson, de pérenniser une manière de s'alimenter. Donc ça peut paraître étonnant d'aujourd'hui autant associer le cuit aux produits industriels ou surtransformés, en niant en fait que la cuisson existe depuis bien longtemps et qu'elle nous a permis aussi de développer notre humanité.
C'est-à-dire que ça relève d'une logique, quand je dis logique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais encore une fois, basée sur des connaissances qu'ont les uns et les autres et qui sont souvent très limitées et qui peuvent se nourrir d'une certaine manière aussi de la limite des connaissances des scientifiques. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la nutrition est un domaine extrêmement complexe dans lequel il y a beaucoup de controverses, même entre scientifiques, que les avis sont divergents à un moment donné, mais aussi dans l'histoire. C'est-à-dire quand on prend les discours qu'on avait il y a 20 ans, c'est pas les mêmes qu'on a aujourd'hui. Et ça, finalement, ça peut servir d'argument auprès des personnes qui ne sont pas spécialistes du domaine, c'est-à-dire l'écrasante majorité des gens, qui vont dire, mais vous voyez, même les scientifiques, les uns et les autres, ils sont pas d'accord, ou ils changent d'avis, etc. Donc tout ça, c'est n'importe quoi. Donc moi, je vais me baser sur l'intuition. Il y a beaucoup de... C'est un mot qui revient très souvent, l'intuition. Et sauf qu'encore une fois, l'intuition, c'est pas toujours un bon guide. Loin de là, ça serait trop simple sinon. Et il y a beaucoup de choses qu'on a d'ailleurs envie de manger et en fait qui vont pas du tout nous faire du bien. Donc faut se méfier, faut savoir rester raisonnable, faut s'informer. Et puis tout en admettant, bien entendu, les limites de la science, c'est très difficile aujourd'hui d'établir ce que serait une alimentation idéale. À part ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, qu'un message assez... à la fois consensuel, mais qui peut paraître un peu mou tellement il est évident, je dirais que c'est finalement de dire qu'il faut manger un peu de tout, on dira bon, c'est tout ce que vous êtes capable de nous dire, vous les scientifiques, oui, mais c'est déjà pas mal.
Alors Irène Grosjean, Thierry Casasnovas, ce sont des personnes qui sont très installées dans ces discours du crudivorisme, des gourous du crudivorisme. Selon toi, comment peut-on expliquer leur succès? Quels sont les rouages de leurs propositions? Comment en fait font-ils pour avoir autant d'adeptes?
Mais justement, ils bénéficient d'un terrain qui fait que beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui face à leur alimentation, avec tout ce qu'on entend de messages alarmistes et ou contradictoires sur les effets sur la santé, sur l'effet sur l'environnement, sur tout ce qu'on peut imaginer. Donc, parfois, une recherche finalement de facilité en disant il faut que je me trouve un guide, un gourou, disons-le, qui va m'aider à progresser dans mon alimentation et à trouver l'alimentation idéale. Et ces gourous se nourrissent de cette fragilité, de ce côté influençable de beaucoup de personnes. Souvent d'ailleurs, grâce à un storytelling bien rodé, scénario typique, c'est la personne qui va raconter qu'elle a été gravement malade et qu'elle s'est auto-soignée grâce à un régime dont elle est prête à partager les secrets avec vous. Et ça marche bien parce qu'on a tous des problèmes de santé à un moment donné. Donc, pour peu qu'on soit un peu influençable, on va éventuellement, suite à un problème de santé éventuellement grave, se dire il faut que je trouve quelqu'un qui va me sortir de cette situation. Et c'est là où on peut facilement partir, se retrouver à suivre ce genre de gourou qui, malheureusement, produisent rarement de guérison. Et sinon, ça se saurait. Et c'est là qu'est le vrai danger. C'est qu'effectivement, c'est vraiment faire en sorte qu'il n'ait pas l'influence qu'ils ont à l'heure actuelle, parce qu'ils entraînent avec eux beaucoup plus de désarroi et de drame que de guérison.
Ils ont vraiment un pouvoir de nuisance, oui.
Ils ont un vrai pouvoir de nuisance, et tout ça, encore une fois, basé sur la crédulité et du fait que même en racontant n'importe quoi, on va toujours trouver des gens pour vous suivre dans vos délires, et systématiquement en s'inventant, effectivement, encore une fois, des guérisons fantasmées et autres choses qu'on peut facilement débunker, comme on dit. Mais c'est toujours pareil, le problème, que ça soit notamment dans la sphère médiatique, à travers les réseaux sociaux notamment, c'est toujours beaucoup plus difficile de rétablir une vérité que de lancer une espèce de rumeur totalement foireuse. C'est bien ça le drame d'ailleurs de cette communication à outrance à travers les réseaux. On voit bien sur tout un tas de phénomènes, qu'il s'agisse de la santé, de l'environnement ou autre, c'est assez facile de lancer des rumeurs et c'est très très difficile après de défaire ces rumeurs.
Ces gourous dont on vient de parler, ils vendent des produits dérivés, ils sortent des vidéos, des livres qui sont très suivis. Il y a donc un business aussi du crudivorisme. Parfois, je m'interroge, est-ce que ces personnes pensent vraiment ce qu'elles pensent, ou est-ce qu'il y a aussi quelque part une part d'ironie, en fait, dans le sens marchand, ou peut-être un peu des deux. Est-ce que tu as un avis là-dessus?
Alors, je ne vais pas avoir un avis, parce que je ne suis pas dans leur tête et je ne souhaite pas l'être. Parce qu'il y en a qui sont vraiment investis de leur mission et d'autres qui sont dans la pure manipulation et l'escroquerie. J'aurais tendance à pencher pour la deuxième option, mais encore une fois, voilà, je n'ai pas fait d'analyse sociologique sur ce qu'il y a dans la tête de ces gourous médiatiques.
Alors, je vais te poser une dernière question un peu plus généraliste. Tu as commencé à y répondre. Mais donc, finalement, aujourd'hui, si on veut bien manger, donc, tu nous recommandes de manger donc, un petit peu de tout. C'est le conseil le plus important, le message central, finalement, aujourd'hui, qu'il y aurait à passer.
C'est à la fois le plus important et le plus simple, et ça tombe bien. Il y a deux facteurs vraiment essentiels dans notre alimentation aujourd'hui. C'est d'une part la diversité, parce que justement, un des principaux fléaux, ce qu'on appelle la malnutrition, c'est-à-dire que ce n'est pas la sous-nutrition, c'est-à-dire qu'on a assez de calories, tout va bien, mais c'est de la malnutrition, c'est-à-dire qu'on a assez de calories, mais il nous manque des minéraux, des fibres, des vitamines, etc. Donc ça, c'est un vrai fléau. On estime qu'il y a plus de 2 milliards de personnes à l'heure actuelle sur l'échelle de la planète qui sont malnutries, et éventuellement d'ailleurs obèses, hein, mais malnutries. Donc, et ça, c'est toujours corrélé à une alimentation trop restrictive, justement. Il nous manque des éléments dans ces régimes qui pourraient nous apporter tout ce dont on a besoin. Donc, en choisissant une alimentation variée, sans réfléchir, sans faire de tableau nutritionnel, sans aller voir un nutritionniste ou autre, juste en mangeant un maximum de choses, en allant taper dans un maximum de catégories différentes, sans réfléchir et sans calcul, on devrait pouvoir s'affranchir d'à peu près toutes les carences. Et la deuxième chose importante, c'est la frugalité. Comme on dit, c'est vrai que d'une certaine manière, quand même, cette épidémie d'obésité, elle est due à une différence trop importante entre l'énergie qu'on dépense et l'énergie qu'on ingurgite. Et pour ça, eh bien, il faut effectivement sans doute baisser un peu la part calorique de nos aliments. D'où cette idée, encore une fois, de dire qu'il faut manger un peu de tout pour avoir la variété et un peu pour pas exploser notre apport énergétique. Et avec ça, ben, ma foi, normalement, on devrait, si tout va bien et s'il n'y a pas d'autres facteurs bien sûr qui interviennent, vivre non seulement vieux, parce que c'est pas forcément l'objectif, mais surtout vieux en bonne santé.
Diversité et frugalité. Voilà donc, selon Christophe Lavelle, les deux maîtres mots qui peuvent nous servir de boussole alimentaire. Or, c'est tout à fait l'inverse qui se joue dans un mouvement comme celui du crudivorisme, régime alimentaire restrictif par définition. Une manière de s'alimenter dont la clé de voûte consiste à dire qu'il faut exclure toute une catégorie d'aliments, la bannir, la supprimer. Mais comment tombe-t-on dans les mailles de ce genre de mouvement? Sur quoi jouent ces dérives sectaires? Que promettent exactement ces gourous nouvelle génération? Quel récit complotiste écrivent-ils exactement? Et en quoi ce storytelling est-il ciselé pour plaire? C'est ce que nous verrons dans un prochain épisode qui décortiquera les manœuvres de domination psychologique en jeu dans la radicalisation alimentaire. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Diane Le Sieur et Nella Acmi. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.